Europie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel. Victor Ouvrard.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Sur la scène internationale, en Ukraine, en Syrie, Vladimir Poutine a rendu la Russie incontournable. Mais la Russie du président russe ne cesse d'inspirer la méfiance et jamais son image n'a été aussi négative. Ce déploiement de force est-il le signe d'un pouvoir sûr de lui-même ou masque-t-il les fragilités de la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique ? Les hésitations de l'Union européenne, qui ne sait pas très bien quelle position adopter face à Moscou, renforcent incontestablement Vladimir Poutine, dans sa quête nationaliste d'une grandeur retrouvée. Alors, face à l'absence de leadership européen, la question mérite d'être posée. Vladimir Poutine est-il l'homme fort de l'Europe? En tout cas, celui qu'il voudrait être. Je vais poser la question à nos trois invités. Bonjour Jean-François Boutor.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain. Votre dernier livre, « Comment Poutine change le monde », est publié aux éditions François Bourin. Michel Elchaninov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, journaliste et essayiste. Vous avez écrit la postface du rapport Nemtsov, et vous nous en direz un petit mot, bien sûr, tout à l'heure, chez Actes Sud. Et puis, vous avez sorti un autre livre qui s'appelle « Les nouveaux dissidents » chez Stock. Alors, les nouveaux dissidents, il y a évidemment des dissidents russes, biélorusses, ukrainiens, mais pas seulement, hein, il y en a d'autres.
Il y en a dans le monde entier, en fait. Mais ça part quand même de Moscou.
Ça part de Moscou, qui ont été pratiquement les premiers, on peut dire ça.
C'est ça, dans les années 60.
Cécile Bessier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en études russes à l'université Rennes 2. Votre dernier livre, Les réseaux du Kremlin en France, est paru aux éditions Les Petits Matins. Merci d'être en ligne de Rennes. Alors, Jean-François Boutors, lorsque Boris Eltsine transmet le pouvoir à Vladimir Poutine, nous sommes le 31 décembre 1999, il est un quasi-inconnu. Les spécialistes de la Russie l'imaginent comme un président de transition et chacun s'interroge. Qui est Vladimir Poutine? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui?
On le sait, on le sait pas d'une certaine manière. C'est-à-dire que je pense que c'est un des aspects de ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que il ne naît pas comme ça de la dernière pluie à ce moment-là. Il arrive avec déjà tout un passé derrière lui, personnel, mais aussi un passé qui est lié à l'institution dans laquelle il est issu, qui est le KGB. Il est depuis quelques années, il est rentré dans l'administration présidentielle en 96, poussé par Anatoly Sobchak, qui était le maire de Saint-Pétersbourg, mais qui a été aussi son professeur de droit à l'époque où il se préparait à entrer au KGB. Il faut savoir qu'Anatoly Sobchak était instructeur du KGB sur les questions juridiques.
Et que Vladimir Poutine était un pétersbourgeois.
Et que Vladimir Poutine a fait ses études à Leningrad à l'époque. Voilà. On se dit à ce moment-là qu'on a vu arriver un espion bizarre, un petit espion qui avait fait une carrière un peu dans un coin un peu perdu.
Très pâle, très grisâtre.
Oui, dans un coin un petit peu perdu de l'Allemagne de l'Est et qui rentrait un peu piteusement de l'Allemagne de l'Est avec ses confrères, après avoir vécu, alors ça c'est ce que tout le monde connaît, un épisode un peu dramatique au moment où les foules est-allemandes, ou allemandes d'ailleurs, pas simplement est-allemandes, ont voulu entrer dans les locaux de la Stasi à Dresde pour s'emparer des archives avant qu'elles soient détruites. Or, les services russes de Dresde étaient hébergés dans le même immeuble. Et il y a un moment de panique où Poutine téléphone à ses supérieurs en disant « mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et il téléphone notamment aux soldats, aux officiers de l'armée rouge qui sont à Berlin, et on lui répond « Moscou ne répond pas ». Donc il y a un vrai moment de panique, qu'il a d'ailleurs largement raconté, pour dire que ça ne lui arriverait plus jamais, ça n'arriverait plus jamais au pouvoir russe. Cela dit, à Dresde, il a joué un rôle pas si mineur que ça, d'abord parce qu'il a été l'interlocuteur de la fraction armée rouge, ce qui n'est pas tout à fait rien, donc des terroristes à l'époque.
De l'extrême gauche.
De l'extrême gauche. Par ailleurs, il a recruté des gens, et notamment un certain Matthias Farnig, qui est devenu un espion de la Dresdner Bank, qui était une des plus grandes banques allemandes, qui a tellement bien réussi dans cette banque qu'il est devenu un des hauts cadres de la Dresdner, puis qui ensuite est arrivé à Leningrad ou Saint-Pétersbourg au moment où Poutine, lui, était devenu, sous l'autorité de Sobchak, le responsable des affaires internationales de cette même ville, donc après avoir quitté l'Allemagne de l'Est. Et il a obtenu de Poutine le droit d'ouvrir une succursale de la Dresdner Bank. Et aujourd'hui, cet homme, il faut savoir, il est dans le directoire de Gazprom, il est dans le directoire du consortium du fameux oléoduc dont Schröder est le président. Donc c'est un homme tout à fait important.
Ce qui surprend, c'est la rapidité de son ascension.
Oui, alors, c'est qu'à Dresde, il y avait un personnage extrêmement important qui s'appelait le baron von Arden. Le baron von Arden, il avait été un des plus grands scientifiques du Troisième Reich, c'est un homme jeune à ce moment-là, et au moment où les soviétiques sont arrivés, il a négocié avec eux et quelques-uns de ses collègues pour qu'ils soient exfiltrés en Union soviétique avec leur matériel pour travailler. Et il a travaillé à quoi? Il a travaillé à la bombe atomique, c'est un des pères de la bombe atomique. Or, en 54, il rentre à Dresde, c'est déjà extraordinaire, et c'est évidemment un homme qui est chapeauté et lié au KGB puisqu'il connaît tous les secrets stratégiques de l'Union soviétique. Et il installe à Dresde une entreprise qui va avoir un statut privé. C'est tout à fait exceptionnel. C'est unique dans tout le monde soviétique, dans tout le bloc soviétique. Et cet homme-là, je l'ai rencontré en 89. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que l'année précédente, dans son bureau, il y avait Vladimir Kroutchkov qui était venu le voir pour lui demander conseil, pour savoir comment faire pour faire partir Honecker et le remplacer. Et c'est lui qui va échoir le pouvoir à Moscou après Boris Eltsine, qui a cherché quelqu'un qui allait lui garantir l'impunité, parce que Poutine ne craignait pas tellement le KGB, il craignait surtout un retour en force des communistes qui l'auraient, si j'ose dire, lynché au écourt, d'une certaine manière. C'était ça sa peur. Donc il cherchait une protection, et il a trouvé en Poutine une protection.
Eltsine cherchait cette protection.
Hein. Oui, Eltsine, oui, pardon.
Mikhail Ejonov, Vladimir Poutine, c'est aussi un homme traumatisé par la fin de l'URSS. On connaît cette phrase célèbre qu'il a prononcée. Il a qualifié la fin de l'URSS de plus grande catastrophe géopolitique du siècle, et toute sa politique, ça a été d'essayer de remettre, non plus à l'URSS, mais la Russie, sur le devant de la scène.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il en a révélé, disons, la coloration il y a beaucoup plus récemment, en 2014, quand il a dit que malheureusement l'URSS s'était désintégrée. Et donc ça, il l'a dit au moment où il a annexé la Crimée en 2014. C'est-à-dire qu'il a un peu abattu ses cartes. Et effectivement, sa politique qui s'est révélé peu à peu, finalement, ça a été de montrer que la Russie était capable de redevenir une puissance importante, et puis aussi éventuellement de faire revivre une partie du rêve soviétique. Alors non pas en, évidemment, reconstituant à l'identique les 15 républiques socialistes, mais en tout cas en empêchant des pays qui avaient été dominés de manière évidemment ultra-violente par l'Union soviétique et par Moscou, de prendre leur indépendance et d'avoir un destin autonome, notamment en s'alliant à l'Europe. On se souvient de la guerre de Géorgie en 2008, où Vladimir Poutine a voulu empêcher le président de l'époque, Mikhail Saakashvili, dans cette république du Caucase, de vouloir se rapprocher des Américains, de l'OTAN et de l'Europe. On se souvient évidemment aussi, puisqu'on est toujours en plein dedans, de cette guerre secrète que mène Vladimir Poutine dans l'est de l'Ukraine. On se souvient de l'annexion de la Crimée, évidemment qui est une violation des traités signés par la Russie elle-même, donc dont le but est effectivement d'empêcher l'Ukraine de suivre un destin européen. Alors on a une logique donc qui commence finalement peu clair au début. Dans les années 2000, Vladimir Poutine se présente plutôt comme un réformateur. Il veut que son pays adopte ce qu'il appelle les standards internationaux, c'est-à-dire ait un peu plus de stabilité, un peu plus de puissance, mais au sens de puissance modernisatrice.
Et de modernité, oui.
Voilà, de modernité. Et puis, peu à peu, son discours varie. Et ça qui est intéressant, peu à peu, Vladimir Poutine, finalement, là encore, crée un discours de plus en plus clair, puisque en 2004, il va prendre un premier virage conservateur. Il va dire que les Européens ne sont pas forcément nos amis. Il va dire les amis de la Russie. Il va dire que le patriotisme à l'endroit de l'État russe est la chose la plus importante. Et puis donc peu à peu, il va durcir son discours. Et quand il revient à la présidence, après l'intermède de Dmitri Medvedev entre 2008 et 2012, là, véritablement, le discours se cristallise. Et se cristallise, ce qui est intéressant, à l'attention évidemment des Russes,
C'est-à-dire qu'il leur dit, voilà, je vous propose une doctrine. On va être conservateur, on va s'opposer à une Europe faible, décadente, dirigée par ses marges, notamment les homosexuels. Donc il y a une homophobie de plus en plus officielle en Russie. Il y a l'affirmation d'une voie russe de développement. On va se développer et on va avoir une démocratie qui va pas être la même que les démocraties, disons, d'Europe occidentale. On va construire une démocratie à la russe, dirigée par un guide qui a beaucoup plus de temps, qui est beaucoup plus forte, plus autoritaire et qui s'oppose au monde américain.
Et ça a été, c'est d'ailleurs le titre d'un des chapitres de votre livre, Jean-François Bouton, Le retour de la Russie. Je vais vous le laisser dire en russe.
Россия возвращается.
Et alors, Cécile Vessier, est-ce qu'on assiste, oui ou non, au retour de la Russie?
Écoutez, on assiste d'une certaine façon, puisqu'on parle quand même pas mal d'elle, quand on parle de puissance, je crois qu'il est important de définir ce qu'est la puissance et ce qu'est la puissance pour les dirigeants russes, et ils le disent là aussi assez clairement. C'est-à-dire que ce qui est certain, malheureusement, c'est que la Russie n'est pas une puissance économique, qu'elle s'enfonce dans une crise très grave, et qu'au bout du compte, M. Poutine a complètement raté cette modernisation qu'il annonçait effectivement dans les quatre premières années de sa présidence, entre 2000 et 2004. Il a complètement raté ça, alors qu'il avait toutes les conditions pour le faire, c'est-à-dire une pulie d'argent qui lui arrivait grâce au prix élevé du pétrole. Finalement, rien n'a été fait. La modernisation a été ratée. Donc, quand on parle de puissance, il conçoit ça, et Michel l'a bien dit, comme une espèce de puissance territoriale, c'est-à-dire qu'il veut contrôler ses voisins. Il ne conçoit pas la puissance comme le fait de transformer la Russie en un État moderne, avec une économie performante. Et là, on le voit très bien, les salaires sont en train de s'écrouler, le rouble s'est écroulé, les gens vivent de plus en plus difficilement. Donc, sur le plan économique, la Russie est tout sauf une puissance.
Il y a en tout cas dans la Russie de Vladimir Poutine un mot qui revient souvent, c'est celui de guerre. À tel point qu'un journaliste français trouve naturel de lui poser cette question. On est en juin 2014. Il lui pose cette question. Une guerre est-elle possible en Europe? On écoute Vladimir Poutine.
J'espère que non. Mais il faudrait que l'Europe manifeste davantage son indépendance et sa souveraineté. Et qu'elle soit capable de défendre ses intérêts nationaux et les intérêts de ses peuples et de ses pays. Je voudrais tout de même revenir sur la question précédente. L'équilibre stratégique, c'est ce qui a garanti la paix dans le monde et a évité de grands conflits armés en Europe et partout dans le monde. Dans le monde et dans les pays européens, on observe des changements tectoniques dans l'opinion publique. Et cela dans le sens d'une défense accrue des intérêts nationaux. Par exemple, en ce moment, l'Europe est confrontée à un problème concret, l'afflux massif de migrants. Or, est-ce l'Europe qui est à l'origine des décisions qui ont amené cette situation? Soyons francs et sincères, ces décisions venaient d'outre-Atlantique. Et c'est l'Europe qui subit le problème.
Alors, Michel Lechenioff, le rapport Nemtsov que vous avez postfacé, c'est d'ailleurs un rapport sur Poutine et la guerre que la Russie a menée et mène encore sournoisement en Ukraine. En quelques mots, ce rapport.
Alors, ce rapport, effectivement, a été rédigé par l'homme politique libéral d'opposition démocrate Boris Nemtsov, qui a été, comme vous le savez, assassiné il y a un peu plus d'un an en face du Kremlin. C'était un rapport qu'il préparait pour dénoncer une propagande effrénée qui inondait les télévisions russes, les médias russes, et qui disait que, finalement, il n'y avait pas de soldats russes en Ukraine et qu'il y avait à Kiev une horde de fascistes terribles qui martyrisaient leur population. Donc, ce qui était intéressant ici, c'est qu'il y avait un russe, un homme politique russe avec son équipe qui disait que c'était pas du tout, disons, l'Ukraine n'était pas un pays qui avait été kidnappé par des fascistes. Non, c'était des Russes qui disaient que l'intervention russe en Ukraine, évidemment non avouée par le président à l'époque, équivalait finalement à la ruine pour la Russie. Ça coûtait cher. Évidemment, on envoyait des soldats au casse-pipe, on envoyait des soldats russes aller combattre de manière clandestine en Ukraine, et on voyait, enfin certains voyaient leur cercueil revenir en Russie et être enterré de manière clandestine.
D'ailleurs, on ne sait pas combien exactement il y a eu de victimes. Hein. Alors, c'est un chiffre confidentiel, pour ne pas dire secret.
Voilà, c'est-à-dire que le rapport apportait des éléments sur la participation russe à cette guerre en Ukraine. Donc visait à dire aux Russes, attention, on n'est pas dans un moment de nationalisme effréné, il faut comprendre que cette guerre est un désastre pour la Russie, pour son économie, pour son honneur, pour ses gens. Et donc ce rapport Nemtsov, Boris Nemtsov n'a pas eu le temps de le publier, puisqu'il a été assassiné, et donc ses compagnons, Ilya Yashin notamment, ont décidé de le faire paraître quand même. Ils l'ont complété, ils l'ont fait paraître. Et effectivement, il a été récemment traduit en français pour que, en France aussi, cette propagande qui consiste à dire que la Russie n'intervient pas en Ukraine soit tout simplement réfutée par les faits.
Donc le rapport Nemtsov publié chez Actes Sud. Pour illustrer un peu ce que vous étiez en train de dire, je vous propose d'écouter un petit sujet de la télé russe. Alors c'est sur le mode de l'humour, mi-humour noir, mi-humour à la gloire de l'armée russe. La présentatrice qui lance le sujet s'interroge, pourquoi ne fêterions pas la victoire de 1945, donc de la Deuxième Guerre mondiale, sans la Russie? Et dit, on peut vous arranger ça, on peut vous envoyer des troupes russes pour le défilé. Et d'ailleurs, l'armée russe peut se déployer rapidement partout en Europe, voire au-delà, et ça donne ça.
Это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров.
La distance entre Moscou et Varsovie n'est que de 1300 km. Nos chars peuvent rejoindre la banlieue de Varsovie la veille du défilé. Les avions ont besoin de seulement 2 heures pour y aller. Ils auront même le temps de faire une répétition et d'atterrir avant de redécoller. Apparemment, cela fait longtemps que nous ne sommes pas allés à Berlin, n'est-ce pas? Le 9 mai est une très bonne occasion pour rendre une visite amicale. Pour une armée moderne, 1800 km, ce n'est pas grand-chose. D'autant plus que beaucoup d'officiers russes connaissent bien l'Allemagne. Certains n'auront même pas besoin de cartes. Prague, Helsinki, Vilnius, Tallinn, tout est proche. Dans la moitié de ces villes, les soldats russes peuvent même y aller à pied, comme c'était le cas il y a 70 ans. Pour la visite à Londres et Washington, il faut l'organiser bien en avance. Sans flotte russe, ce serait difficilement faisable. Mais on a encore du temps jusqu'au 9 mai. On accepte les volontaires, notre armée est grande. Il y a de la place pour tout le monde. Il restera même des troupes à Moscou. Dommage pour nos partenaires occidentaux, ils ne pourront pas apprécier l'Iskander 31, qui ne peut voyager que par la voie aérienne.
Alors l'Iskander 31, c'est évidemment un missile russe très performant. Jean-François Boutor, évidemment, c'est pas un reportage, mais on est quand même dans un journal télévisé. On est sur le mode de l'humour, mais de l'humour un peu grinçant, et ça révèle tout de même un état d'esprit.
Ça montre beaucoup d'agressivité. Je dois dire que mettez-vous à la place d'un habitant de Prague ou d'un habitant de Varsovie, c'est juste injurieux. Et c'est une insulte à la mémoire pour ces gens-là. Moi, je trouve que c'est d'une violence extrême. Je voulais revenir aussi sur ce qu'on a entendu de la part de Poutine, parce que son discours était très intéressant quand même. Donc, quelle était sa position? Il adoptait une espèce de position paternaliste et protectrice par rapport à l'Europe à laquelle il donnait des conseils, sachant qu'il soutient des mouvements qui effectivement sont des mouvements nationalistes en Europe qui fragmentent l'Union européenne. Donc en fait, c'est un discours sous couvert de paternalisme, c'est un discours de l'affaiblissement. Et puis il y a un deuxième registre, c'est ce qu'il dit à propos des réfugiés en disant c'est une décision qui vous a été imposée par les États-Unis. Et là, on revient à un autre aspect de la pensée de Poutine, c'est qu'il veut casser le lien à l'intérieur de l'Occident entre l'Amérique et l'Europe. C'est la nécessité d'arracher l'Europe à l'influence américaine. C'est une pensée de longue date d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas s'il l'a inventé tout seul, je suis pas sûr, mais stratégiquement, c'est une chose importante. Il a besoin d'une Europe faible face à lui. Il a besoin d'une Europe qui ne fonctionne pas trop bien, qui n'ait pas de contre-modèle aux yeux de la population russe et des populations des pays avoisinants, et en particulier de l'Ukraine, puisqu'on a vu que les Ukrainiens étaient fortement attirés, au fond, par le modèle européen malgré sa faiblesse. Ils préféraient le modèle européen faible à un modèle russe qu'ils avaient observé. Vous savez, les Ukrainiens ont été très très heureux de ne pas avoir à envoyer leurs enfants faire la guerre en Tchétchénie, par exemple. Ils savent ce qu'est la corruption, mais ils sont très heureux de ne pas atteindre aussi les niveaux de corruption, y compris de la justice, etc., tel ça fonctionne en Russie. Donc, l'idée d'affaiblir le modèle européen qui, au fond, pourrait attirer dans l'espace...
L'étranger proche, comme on dit,
mais aussi convaincre les Russes eux-mêmes qu'il y a une possibilité. Imaginez qu'une Ukraine s'en sorte dans un partenariat européen. Vous comprenez bien que très vite, dans pas mal d'endroits en Russie, on va se dire, au fond, il y a une autre solution que celle qu'on nous présente, qui est celle de la violence, qui est celle de la force et qui est celle de la soumission.
Et c'est évidemment un problème récurrent de la Russie de Vladimir Poutine qui n'arrive jamais à être séduisante, déjà pour l'étranger proche, c'est-à-dire les anciens pays de l'Union soviétique, et puis au-delà, à l'exception évidemment des pays un peu dictatoriaux. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières infos, et on se retrouve dans 3 minutes très exactement avec nos invités. À tout de suite.
Geopiske.
Kruzemion tut Europa.
Raskrucia Europei.
Stavrodromitis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel. Victor Ouvrard.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Sur la scène internationale, en Ukraine, en Syrie, Vladimir Poutine a rendu la Russie incontournable. Mais la Russie du président russe ne cesse d'inspirer la méfiance et jamais son image n'a été aussi négative. Ce déploiement de force est-il le signe d'un pouvoir sûr de lui-même ou masque-t-il les fragilités de la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique? Les hésitations de l'Union européenne, qui ne sait pas très bien quelle position adopter face à Moscou, renforcent incontestablement Vladimir Poutine dans sa quête nationaliste d'une grandeur retrouvée. Alors face à l'absence de leadership européen, la question mérite d'être posée. Vladimir Poutine est-il l'homme fort de l'Europe, en tout cas celui qu'il voudrait tant être? Je vous représente rapidement les invités qui ont bien voulu prendre place autour des micros de Carrefour de l'Europe. Jean-François Boutor, journaliste écrivain, son dernier livre « Comment Poutine change le monde » aux éditions François Bourin. Michel Letchaninov, philosophe, journaliste et essayiste, il a écrit la postface du rapport Nemtsov chez Actes Sud. Et Cécile Vessier, professeur en études russes à l'université Rennes 2, son dernier livre « Les réseaux du Kremlin en France ». Elle est en ligne de Rennes. Alors, avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Laurence Abbé.
Bonjour Daniel.
Quelles relations l'Union européenne et la Russie peuvent-elles envisager? En tout cas, pour le géostratège Fyodor Loukianov, qui a publié un article dans Gazeta.ru, il est clair en tout cas que l'accord de partenariat signé en 1994 est caduc.
Oui, en effet, au fondement de l'accord de partenariat de 94, il y avait l'idée de la Grande Europe, cette fameuse grande maison européenne promue par Gorbatchev. Mais la Russie et l'Union européenne ont depuis énormément changé. Elles ne sont plus du tout ce qu'elles étaient au début des années 90. La Russie ne veut plus faire partie de l'Europe unifiée. L'UE ne veut plus s'élargir. C'en est donc fini du partenariat stratégique.
Alors, il faut imaginer quelque chose. Et sur ce point précis, les Russes, en tout cas l'auteur russe du site Gazeta.ru, a quelques idées.
Oui. En tout cas, il y aura 4 points incontournables dans l'élaboration du cadre de ces futures relations. Premièrement, on ne pourra plus parler d'accord global. Il y aura des accords par secteur, surtout sur le plan économique. Deuxièmement, le volet énergétique. Troisièmement, la Grande Eurasie, qui devra remplacer la Grande Europe.
En tout cas, d'un point de vue russe.
Oui, puisque la Russie, désormais, se pense comme au sein de l'Union eurasiatique. Enfin, le volet de la défense, puisque l'OSCE ne semble plus pouvoir répondre aux défis qui se présentent aujourd'hui. Voilà, c'est ce que nous propose en tout cas le spécialiste de géopolitique russe Fyodor Loukianov, assez connu dans les milieux diplomatiques.
Fyodor Loukianov, qui est géostratège, qui a l'oreille du Kremlin. Merci Laurence Abbé, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors, quelle relation l'Union européenne peut-elle envisager avec la Russie? Alors, la Russie a prouvé qu'il fallait compter avec elle en Syrie, la situation est bloquée en Ukraine, les sanctions vont-elles être maintenues? Est-ce qu'il faut lever les sanctions? Quelle relation l'Union européenne peut-elle envisager avec la Russie, Jean-François Boutor?
Les Russes auraient bien aimé que on attache dans le même paquet la Syrie et l'Ukraine en disant voilà, nous rendons service à la communauté internationale en Syrie en bloquant les islamistes. C'était le discours au début de l'opération russe en Syrie. Et donc, nous sommes devenus un partenaire dont vous avez besoin. Donc
incontournable.
Incontournable. Et donc, maintenant, il va falloir lever les sanctions. Et il y a Il y a d'ailleurs un certain nombre de dirigeants politiques européens, et en particulier français. Je pense notamment, par exemple, à François Fillon, qui a dit tout de suite, dès le début de l'intervention syrienne, qu'il fallait lever les sanctions. Donc, il y a une tentation en Europe d'oublier, finalement, le contentieux ukrainien, en disant, maintenant, la Russie rentre dans le jeu, et on est obligé de faire avec elle, c'est une grande puissance, on peut pas la laisser à la marge. En réalité, ce qui se dessine, c'est de dire ces deux dossiers qu'on traite séparément. Et sur l'Ukraine, on va pas bouger tant qu'il n'y a pas, d'une part, de véritables garanties que d'abord l'accord de cessez-le-feu, l'accord de Minsk fonctionne et qu'il va fonctionner durablement. Et que par ailleurs, on va pas considérer, même si un certain nombre d'hommes politiques, là aussi, font comme si les choses étaient... qu'on est passé par perte de profit, on peut pas considérer que ce qui s'est passé en Crimée est normalisé. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir les sanctions parce qu'elles ont prouvé, d'une certaine manière, leur efficacité. Moi, je suis persuadé que si on cède trop vite sur les sanctions, on va avoir une nouvelle poussée
expansionniste
en Ukraine.
Cécile Bessier, c'est aussi votre point de vue ?
Oui, c'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est que sur ce plan, bon, en partant du principe que Loukianov, effectivement, exprime des positions assez proches de celles du pouvoir, ils disent quand même un petit peu tout et n'importe quoi selon les circonstances, parce que vous allez aussi entendre en permanence M. Poutine dire il faut une Europe qui serait, alors son expression exacte, c'est de Lisbonne à Vladivostok. Donc d'un côté, ils disent qu'ils veulent une espèce de grande Europe qui unirait l'Union européenne et l'Union eurasiatique. De l'autre, ils disent que non, il n'est plus possible d'avoir des relations apaisées avec l'Europe. Et effectivement, il y a cet axe de communication qui a été exprimé dans l'extrait que vous avez transmis de M. Poutine en disant de toute manière, on ne peut rien faire avec l'Europe puisqu'elle n'est pas indépendante et puisqu'elle est soumise aux États-Unis. Moi, je crois que tant qu'il n'y aura pas, je dirais, de transparence, c'est-à-dire tant qu'on ne pourra pas faire confiance à M. Poutine ou pas plus exactement aux dirigeants russes, il ne pourra pas y avoir d'accord réel. C'est-à-dire que on a eu M. Poutine qui, en 2008, l'a dit explicitement, la Russie n'avait aucune revendication sur la Crimée. Quelques temps plus tard, il annexe la Crimée de façon complètement illégale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un discours de transparence, on n'est pas dans un discours d'honnêteté. M. Poutine a d'abord dit que les petits hommes verts en Crimée et ceux dans le Donbass n'étaient pas russes. Ensuite, il a reconnu d'abord avoir lui-même donné l'ordre d'envoyer des troupes en Crimée. Ensuite, avoir envoyé des spécialistes dans le Donbass. Donc, je crois que le drame actuel, parce que c'est vrai que c'est un drame, c'est qu'il ne peut y avoir aucune confiance entre l'Union européenne d'une part et les dirigeants russes de l'autre. C'est impossible.
Cécile, est-ce que ça ne fait pas tout de même de Vladimir Poutine l'homme fort de l'Europe ? C'est lui qui donne le là, c'est lui qui prend les initiatives, et puis l'Union européenne réagit.
Non, je pense que l'Europe est faible, ça c'est clair. L'Europe est faible, elle n'arrive pas à avoir une politique étrangère qui soit cohérente, elle n'arrive pas parce qu'elle traîne, elle est lente. Je veux dire, incontestablement, elle n'arrive pas, je dirais, à s'imposer. Ça ne fait pas de Vladimir Poutine un homme fort. Ça fait de lui un homme absolument faible, qui a un pays qui malheureusement est complètement faible, mais qui agit, et c'était excellent là, l'extrait que vous avez donné sur « Regardez, on va envoyer nos avions à Berlin et à Prague, ils ont l'habitude », parce que ce sont des procédés de voyous au bout du compte. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire peur. Ils essaient de faire peur par des espèces de procédés en se disant « En face de nous, on a des gens qui sont faibles et on a, et c'était rappelé tout à l'heure, effectivement, une Europe homosexuelle, de gens qui ne décident pas, qui ne tapent pas sur la table, etc. » Donc non, ça n'est pas un homme fort et la Russie n'est pas une puissance. On a un État faible, on a un pays en crise et on a des gens qui ont, et ça j'en parle dans mon livre, qui ont des procédés de voyous et qui ont développé une culture de voyous en essayant de nous impressionner. Après, nous, Européens, je crois qu'il faut leur dire aussi calmement et poliment qu'on n'est pas impressionnés et effectivement essayer de régler nos problèmes parce que chacune des faiblesses, et là encore c'était dit dans un des extraits Poutine que vous avez donné, notamment par exemple la crise des migrants, chaque faiblesse de l'Europe sera exploitée par des gens qui ne sont pas forts, mais en revanche, qui ont une formation leur permettant d'être très habiles en communication et en manipulation.
Michel Tcherninov, alors évidemment, sur le plan militaire, une Russie assez forte, Poutine l'a prouvé en intervenant en Syrie avec un certain succès en termes de déploiement de forces et de capacité à frapper des objectifs. Évidemment, une économie très très affaibli, en récession, et ça ne va pas changer dans les 15 jours qui suivent, dans les années qui suivent.
Oui, je pense qu'en réalité, il y a un profond piège dans lequel veut nous emmener Poutine, qui est celui, effectivement, de dire que lui représente aujourd'hui en Europe le pôle de la force, tandis que nous, Européens, disons l'Union Européenne, représentons le pôle de la faiblesse. Je pense qu'il y a un piège rhétorique qui est tendu, où il s'agit de faire croire aux citoyens, et même les citoyens français, ils sont nombreux, faire croire que la Russie, c'est la force. Or, effectivement, Cécile Vessier l'a bien rappelé, aujourd'hui le pays économiquement est très faible et l'est de plus en plus. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que donner des droits aux homosexuels n'est pas du tout forcément une preuve de faiblesse. Et au contraire, du point de vue démocratique, peut être considéré comme une preuve de force, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur, par exemple, d'une union homosexuelle. Quand la corruption extrêmement forte qui mine la Russie n'est pas du tout une preuve de force. Donc en fait, ce qu'il faut, je pense, réussir à tout à fait objectivement démonter, c'est ce piège rhétorique qui prétend qu'il y a un pôle de force et un pôle de faiblesse aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des interrogations et des doutes en Europe, effectivement. Il y a des doutes en France sur ce que doit être la démocratie aujourd'hui, est-ce qu'elle doit être plus sociale, moins sociale, plus ferme, quel rapport à l'autorité, quel rapport aux religions, qui sont les questions légitimes que se pose une démocratie, qui est un moment de doute, mais que il ne faut pas penser qu'aujourd'hui la Russie viendrait s'imposer naturellement comme la résolution de ces doutes. Or, Vladimir Poutine en joue très habilement. Alors, il le joue par exemple en Syrie, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il va envoyer un missile de la mer Caspienne en Syrie pour montrer qu'il a quand même réussi depuis quelques années avec effectivement l'argent des matières premières à construire quelques nouvelles armes. Il y a un nouveau tank, il y a des nouveaux missiles, etc. Mais une intervention qui, au fond, ne correspond absolument pas aux objectifs affichés. Souvenez-vous du grand discours à la tribune de l'ONU, il s'agit de vaincre, d'après Vladimir Poutine, ce nouvel ennemi, ce nouveau nazisme qu'est Daesh. On sait malheureusement que durant l'intervention russe, les forces les plus frappées par l'aviation russe étaient des forces qui n'étaient pas celles de Daesh, qui étaient d'autres forces d'opposition, islamistes ou non-islamistes. Et par ailleurs, la mission n'est pas terminée, c'est-à-dire que Daesh n'est pas détruit, mais les Russes, la Russie, le Kremlin, sachant que cette guerre coûte très cher à son économie, préfèrent se retirer en jouant l'avantage de communication et en gardant quelques bases. Donc voilà, je pense que ce qu'il faut véritablement casser, c'est ce mythe de la force russe par rapport à la faiblesse européenne.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, Vladimir Poutine est-il l'homme forme qu'il voudrait être en Europe? Nous sommes avec Jean-François Bouteur, journaliste écrivain, son dernier livre « Comment Poutine change le monde » avec Michel Etcheninov, philosophe, journaliste et essayiste, son dernier livre, il a écrit la postface du rapport Nemtsov et son dernier livre c'est « Les nouveaux dissidents chez Stock » et avec Cécile Vessier qui est en ligne de Rennes qui a écrit « Les réseaux du Kremlin en France ». Alors Jean-François Bouteur, j'aimerais consacre le reste de cette émission à dire quelques mots sur l'état de la société russe. Quel est l'état de la société russe? On a dit qu'économiquement c'était difficile, que les salaires baissaient, on pourra rajouter que l'opposition n'existe pas, que les médias sont extrêmement contrôlés. Est-ce que les Russes vivent dans une société anxiogène? Quand on entend un petit peu cet extrait qu'on a entendu avec l'idée que la Russie pourrait être en guerre, et elle est d'ailleurs en guerre en Ukraine, en Crimée et ailleurs, et que la guerre pourrait reprendre en Russie, c'est évidemment une société un peu qui vit dans un monde un peu anxiogène.
C'est une société qui est soumise à, si j'ose dire, à un massage idéologique majeur à travers notamment la télévision. Parce que si Poutine a laissé quelques petits espaces de liberté, entre guillemets, avec la radio Echo de Moscou ou la Novaya Gazeta, il contrôle absolument la télévision et... Ils ont une action aussi, il a ses services ont une action assez forte maintenant sur les réseaux internet. Donc l'idée c'est de faire rentrer dans la tête des Russes que Vladimir Poutine est le protecteur des Russes, que on est revenu à la vieille situation où c'est eux et nous, eux c'est les Occidentaux, nous ils nous assiègent et il faut donc se défendre. Et puis, ce que Michel explicite formidablement bien dans son livre, fournir un certain nombre d'arguments idéologiques, de restauration, dans une société qui est quand même qui s'est pas encore relevé de l'effondrement de l'URSS et du choc de la libéralisation extrêmement violente qui a eu lieu à l'époque de Boris Eltsine. Et donc, on a une société qui est assez fortement brisée mentalement, qui a besoin de repères, qui a besoin d'être rassurée, et à qui on sert des arguments pour lui redonner un certain honneur, mais c'est un leurre en réalité, parce que elle ne se retrouvera que si on permet aux gens d'accéder vraiment à leur liberté, à une société de droit. Et là, on est loin d'être dans un état de droit. Donc c'est ça la situation des gens. Et puis par ailleurs, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. Je crois que c'est un peu, il n'y a pas d'opposition. Toute opposition, toute structure politique d'opposition est contrée immédiatement. Mais je pense qu'il y a de plus en plus dans une partie de la société russe, et pas simplement chez les gens qui ont de l'argent pour aller à l'étranger, des gens qui qui réfléchissent et qui seront prêts et disposés à dire non à ce genre de choses.
Est-ce que c'est la fameuse opposition dans les cuisines, où à l'époque soviétique, on se rassemblait dans les cuisines et on parlait du pouvoir pour en dire le plus grand mal? Est-ce que c'est de nouveau l'opposition des cuisines? Parce que c'est vrai que les manifestations en Russie sont faibles, elles sont évidemment immédiatement réprimées. Quel est l'état?
Écoutez, on a quand même un exemple, c'est que au moment de la réélection de Poutine en 2012, il y a une vraie surprise, parce que à ce moment-là, tout le monde pense que ça va être un boulevard pour Poutine. Et en fait, les résultats sont pas si bons. Et on s'aperçoit qu'il a fallu bourrer un peu les urnes pour donner un peu de brillant à cette victoire qui était trop pâle. Et la population descend dans la rue. Et là, ça fait vraiment peur à Poutine, parce que la parole est libérée.
Et là, on est en 2012. Aujourd'hui, en 2016, cette opposition s'est quand même énormément affaiblie.
Elle n'a pas d'espace pour s'exprimer, bien entendu, parce que chaque fois on lui tire le tapis sous le pied, on fait des ennuis à ses leaders. Mais ça ne veut pas dire que les gens ont changé de mentalité. Je crois qu'il faut pas se tromper. Hein. Le jour où le tsar va apparaître faible, on va voir beaucoup de gens se retourner, je crois.
Alors Cécile Vessier, c'est un peu l'objet de votre livre « Les réseaux du Kremlin en France ». La Russie de Vladimir Poutine se donne beaucoup de mal pour exister, pour essayer d'influencer la société, évidemment, en Russie. Mais au-delà, alors il y a une multitude d'exemples dans votre livre. Il y en a une que j'aime beaucoup, ce sont les trolls. Qu'est-ce que c'est que les trolls russes, Cécile Vessier?
Écoutez, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'on a à la tête de la Russie des gens qui ont été majoritairement formés par le KGB et donc qui ont certaines techniques. Il ne faut pas avoir peur des mots et de rappeler ce passé-là. Et les trolls, ce sont des gens qui sont payés pour aller inscrire des commentaires sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'effectivement, le Kremlin, qui contrôle tous les médias, a maintenant très peur des réseaux sociaux qui permettaient d'informer les gens. Alors, je vous rappelle quand même qu'on vient d'avoir plusieurs condamnations en Russie de personnes simplement parce qu'elles avaient mis un like sur un article sur un réseau social, ou parce qu'elles avaient retransféré un article sur un réseau social, c'est-à-dire même pas pour un texte. Donc, ils ont inventé des trolls. Ils se trouvent, alors c'est comme aux horaires de bureau, donc on a parlé de fabrique des trolls qui se trouvent à certains endroits, qui sont payés davantage s'ils parlent une langue étrangère, et qui vont mettre un certain nombre de commentaires pour influer dans un sens la pensée des gens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a très bien vu des campagnes de trolls se déchaîner en Occident aussi. Alors, ce qui est compliqué, c'est que, si vous voulez, il y a les trolls qui sont payés, qui éventuellement écrivent de Yekaterinbourg, et puis vous avez aussi les gens qui sont réellement convaincus que Poutine est le meilleur et qu'il va sauver le monde. Donc, c'est toujours assez difficile d'estimer qui est qui. Mais il y a eu, y compris des études absolument techniques pour regarder de quelle IP venaient les messages, etc., qui ont démontré qu'en Occident aussi, sur certains médias, alors je pense au Guardian, je pense à Mediapart, on a eu des campagnes qui étaient absolument commanditées de Russie pour contrer une information.
Alors, je pose la question à l'un de vous trois. Il y a des efforts de la part de la Russie de Vladimir Poutine pour essayer d'être une puissance, une force positive. Mais en dehors, par exemple, en Europe de Viktor Orban, il y a peu de soutien de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, il y a peu de soutien. Alors, est-ce que c'est pas un problème sans fin pour la Russie? La Russie n'arrive jamais à être séduisante. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Michel et
Non, je ne suis pas d'accord, en fait, parce que j'ai l'impression que effectivement la crise de conscience européenne que nous vivons actuellement, que Vladimir Poutine en profite pour lancer quelques hameçons, et que ces hameçons prennent dans une partie de la société, pas seulement en France, d'ailleurs dans plusieurs pays européens, voire dans beaucoup de pays du monde, où Vladimir Poutine est celui qui va incarner une bascule civilisationnelle. En gros, ce que nous dit Poutine, c'est que depuis les années 60, on vit dans un moment où l'émancipation de l'individu, où la protection des marges, où le respect du droit deviennent vraiment les choses fondamentales. Et lui nous dit que non, en 2002, à partir des années 2010, eh bien, il faut en revenir à une politique de civilisation au pluriel, à des politiques identitaires. Il faut qu'il y ait un modèle russe, un modèle chinois, un modèle indien, un modèle européen de démocratie. Et là, il essaye d'enfoncer des coins dans notre grande idée, d'ailleurs très française, d'universalisme, d'idée suivant laquelle, bah oui, il y a quand même des droits humains qu'il faudrait respecter partout dans le monde. Et donc, Vladimir Poutine joue sur les idées du conservatisme, en disant finalement, les années 60, ça nous a apporté que des ennuis, joue sur l'anti-américanisme en disant finalement pourquoi on serait tous pareils, il faudrait être différent, ce qui est évidemment un discours très séduisant et très fou en même temps, puisque personne ne nous oblige à être tous pareils. Et donc joue sur plusieurs fantasmes, plusieurs idées, plusieurs doutes au fond, pour nous dire, regardez, moi je propose une alternative. Et moi je constate en discutant avec les gens, en lisant les livres, en lisant les médias, que ça fonctionne par, je pense, absence d'esprit critique de notre part. Et aussi, pour terminer, je dirais que ça fonctionne parce que nous ne sommes peut-être pas assez conscients de la force des démocraties dans lesquelles nous vivons. Nous avons un peu oublié que les démocraties étaient une vraie force et qu'il n'y avait aucune honte, aucun complexe à faire partie des pays où les droits étaient respectés.
Jean-François Botor, est-ce que les efforts de Vladimir Poutine, de la Russie de Vladimir Poutine, pour être séduisante, marchent ou pas?
Vous évoquiez Orban, mais il n'y a pas que Orban. Vous avez le leader slovaque qui s'aligne à peu
près. Robert Fico, oui.
Voilà. Vous avez en République tchèque, Zeman n'est pas non plus, c'est pas un adversaire très violent de Poutine, au contraire.
Ça ne marche pas en Pologne.
En Pologne, figurez-vous, ça marche pas sur la question nationale, mais sur l'idée du conservatisme, ils sont totalement en ligne. Kaczynski peut tenir presque les mêmes discours que Poutine, sauf sur la question de la défense de la nation, qui est une question centrale pour la Pologne. Et Kaczynski tient des discours anti-européens que Poutine ne renierait pas. Et puis quand même, vous avez ce qui s'est passé il y a quelques jours, le référendum aux Pays-Bas, qui a été initié par des courants nationalistes, dont on sait qu'ils sont soutenus largement par Vladimir Poutine, et dans certains cas, y compris financièrement. Et vous avez vu que les Pays-Bas ont voté contre la ratification de l'accord de partenariat avec l'Ukraine. Donc, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'effectivement, ça avance. Les idées de Poutine avancent en Europe occidentale, oui.
Ce qui, évidemment, met l'Union européenne dans une petite impasse, en tout cas provisoirement. Cécile Vessier, est-ce que... c'est un petit peu l'objet de votre livre.
Absolument.
Est-ce que les réseaux du Kremlin en France sont efficaces? En France et en Europe, on va élargir évidemment.
Bon, je dirais, d'abord, ce qui est important, c'est de dire que ces réseaux que j'ai étudiés sur la France, ils existent au moins partout en Europe. C'est-à-dire qu'ils existent, il y a un livre qui va sortir ces jours-ci en Allemagne, qui démontre exactement la même chose que moi sur l'Allemagne. C'est-à-dire l'existence de ces réseaux, dont l'existence a été déjà démontrée, en République tchèque. C'est-à-dire que, d'abord, la Russie est un pays magnifique, je crois qu'il faut le dire. La Russie est un pays magnifique qui aurait des tas d'atouts, mais effectivement, ce ne sont pas ces atouts qu'elle met en avant. Et Poutine essaie de faire complètement autre chose. Et pour faire ça, il a des réseaux, alors on disait des financements, ben oui, il a des réseaux. Certains sont financés, d'autres pas. D'autres ne sont pas financés parce qu'on joue sur un certain nombre d'idées. Et ce que disait Michel sur la façon comme ça d'enfoncer des coins dans chaque point qui pourrait être vu comme faible, et il a raison de le souligner, qui ne l'est pas de nos démocraties, c'est tout à fait dans les pratiques poutiniennes. Donc oui, il y a des tentatives dans le monde politique, dans l'extrême droite, au Parlement européen, au monde du business aussi, parce que le business a tout à fait envie, on peut le comprendre, j'irais, de reprendre les affaires avec Moscou, et de faire oublier qu'il y a quand même une différence fondamentale de principe, non pas entre nous et la société russe, mais entre nous et les dirigeants russes actuels.
En tout cas, le paradoxe, c'est que Vladimir Poutine reste tout de même très populaire en Russie. Alors, on peut expliquer qu'il contrôle les médias, la télé, etc. Mais tout de même, il reste populaire, Michel Etchaninov.
Il y a ce que j'appelle, moi, un phénomène d'hystérisation de la population, alors qui ne marche pas totalement, parce que je pense que les Russes se sentent au fond profondément européens et ont toujours en eux aussi quelque chose qui leur fait douter du discours officiel. Mais ce que fait de manière absolument consciente Vladimir Poutine par rapport à son peuple, c'est d'essayer d'hystériser la société sur le thème de la revanche, sur le thème de, comme le disait Jean-François Boutor tout à l'heure, nous sommes assiégés, on nous empêche d'être nous-mêmes, il faut se défendre. Donc une politique réactive, fondée sur les passions que Spinoza appellerait des passions tristes, c'est-à-dire les passions de colère, de revanche, d'humiliation, et pas de volonté de se développer et de se rapprocher. Et que cette hystérisation, évidemment, elle fonctionne, et elle a fonctionné à plein au moment de l'annexion de la Crimée. C'est-à-dire, on a dit à ce moment-là, bah regardez, la Russie à nouveau s'agrandit territorialement. Donc, nous sommes à nouveau de retour. En même temps, cette hystérisation, elle est fragile. Elle est fragile parce que, d'un côté, effectivement, les conditions sociales et économiques se dégradent, et puis parce que, par essence, l'exaltation est temporaire, et qu'à un moment, toujours, on revient quand même à la vie de sa famille, à la manière dont les enfants sont soignés, mais aussi à la manière dont les droits sont respectés, au projet politique qu'on veut pour le pays. Donc ce que je sens aujourd'hui, à l'approche d'élections législatives en septembre, qui peuvent s'avérer difficiles pour le pouvoir, parce que là il ne s'agit pas d'élire Poutine, il s'agit d'élire un parti, le Parti Russie Unie, qui est unanimement, enfin en tout cas qui est largement détesté par la population,
oui,
à cause de son népotisme et de sa corruption. Donc on entre dans une période difficile, parce que septembre 2016, nouvelles élections législatives, que les précédentes élections législatives de 2011 ont été accompagnées d'un grand soulèvement populaire contre les fraudes. Et donc Vladimir Poutine aujourd'hui se retrouve face à une situation sociale, économique, mais également politique, pas évidente. Et donc le risque que nous avons devant nous, c'est que Vladimir Poutine, pour échapper à ces dangers, eh bien, on rajoute sur l'exaltation nationaliste. Donc, on est face à un risque de fuite en avant.
Et Vladimir Poutine n'a toujours pas réussi à dépasser le fait que la Russie est une puissance, certes, mais une puissance pauvre.
On est typiquement dans un processus de compensation. On compense par le discours ce qu'on n'a plus dans la réalité. Vladimir Poutine, dans les années 2000, nous disait « Je vous offre de la stabilité, vous pourrez aller à Sharm el-Sheikh, mais ne regardez pas comment j'exerce le pouvoir. » Aujourd'hui, il dit « On ne peut plus aller à Sharm el-Sheikh. On est fâché avec la Turquie. Il y a le terrorisme, il y a la pauvreté, mais ce que je vous offre, c'est la grandeur. » Évidemment, un jour, les gens vont un peu regarder s'ils ont toujours envie de cette grandeur verbale.
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Victor Ouvrard. Sur la page Carrefour de l'Europe RFI, vous saurez tout sur nos invités et vous pourrez bien sûr écouter cette émission pratiquement ad vitam aeternam. On reste en contact via les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Moscou, à Paris, ailleurs dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.